Sécurité, insécurité, entre mythes et réalité, magazine La Net Info. Le 13 décembre dernier a été inauguré dans les Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence l'Observatoire régional de la délinquance et des contextes sociaux. Initié par le sociologue Laurent Mucchielli avec le concours de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, cette structure vise à tisser des ponts entre le monde de la recherche scientifique et les politiques locales. Directeur de recherche au CNRS, Laurent Mucchielli entend ainsi apporter une action de service public aux collectivités territoriales, une aide pour diagnostiquer les problèmes et évaluer leurs politiques publiques et leurs dispositifs. Parallèlement à cet observatoire, Laurent Mucchielli vient de publier aux éditions Fayard l'invention de la violence, des peurs, des chiffres, des faits. Deux raisons pour aller à la rencontre d'un universitaire spécialiste en France de la question de la délinquance, de la sécurité et des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Laurent Mucchielli.
Alors ça a plusieurs fonctions, il y en a qui sont internes au monde de la recherche et de l'université, hein. C'est de faire un petit peu de créer du réseau, créer un lieu d'échange et de partage sur ces questions-là qui ne sont pas très développées dans la région comparativement à la région parisienne d'où je viens. Il s'agit de faire ça, il s'agit également de développer, de faire des recherches fondamentales sur les phénomènes de délinquance et d'analyser leur contexte, parce que la délinquance ne tombe pas du ciel, ne sort pas du code génétique, etc. Elles ont des contextes et il faut absolument les objectiver. Et puis je dirais que ça a une troisième fonction, d'où le soutien de la région PACA. Ça a à mes yeux aussi la fonction d'aider les professionnels et les élus locaux qui le souhaitent à diagnostiquer les problèmes et évaluer leurs actions. Alors, je dis bien ceux qui le souhaitent parce qu'on sait qu'au niveau local comme au niveau national, il y a un usage politique de ces questions-là et il y a par ailleurs un temps politique extrêmement court qui n'est pas le temps de la recherche, bien sûr. Bon. Mais néanmoins, certains élus, certains professionnels travaillant avec les collectivités sont néanmoins, eux, dans une fonction et une démarche de diagnostic, d'évaluation, et donc proposer l'aide, au fond, des sciences sociales et des méthodes d'objectivation que nous avons, c'est aussi un des enjeux de cet observatoire.
La délinquance des mineurs, les banlieues, les Noirs, les Arabes, des sujets récurrents aujourd'hui ?
Alors, c'est dans l'histoire, hein, c'est classique qu'il y ait des minorités stigmatisées. En plus, dans un vieux pays d'immigration comme la France, on peut dire que toutes les vagues d'immigration, un petit peu, ont endossé ce rôle de bouc émissaire. Vous m'interviewez aujourd'hui à Marseille, où il y a une histoire extrêmement importante, par exemple avec l'immigration italienne, hein, à la fin du 19e siècle, au début du 20e, et qui a suscité, on l'a complètement oublié, mais qui a suscité de grandes violences à cette époque-là. Donc, c'est pas nouveau. Néanmoins, il est tout à fait certain qu'il y a eu en France dans les années 60 à 80, et encore aujourd'hui les traces évidemment, mais il y a eu d'abord une focalisation sur ce qu'on appelait dans les années 60 le problème nord-africain. Il y a quand même eu, il faut le rappeler, c'est tout à fait fondamental, quelque chose qu'on a appelé longtemps les événements d'Algérie, hein, qui est en fait une guerre de conscription, donc qui a touché énormément de Français, et en plus une sale guerre, une guerre particulièrement sale, bon, qui a évidemment exacerbé un racisme anti-maghrébin en France. Qui est absolument indéniable si on veut bien le regarder, qui dans les années 70, encore début 80, beaucoup, a fait des morts, a fait des dizaines et des dizaines de morts. Hein. Il faut vraiment que ces choses, aujourd'hui, ne sont connues malheureusement que par quelques spécialistes. Alors, il en est resté cette trace, toujours bien présente, et qui a été considérablement réactivée lorsqu'a surgi sur la scène politique et médiatique la peur de l'islam, qui est venue complètement réactiver, au fond, ce vieux racisme ou cette vieille suspicion à l'égard des personnes originaires des pays du Maghreb. Et puis, plus récemment, toujours dans ce processus, de migrations successives. Plus récemment, on voit comment là est en train ces dernières années de monter, en particulier en région parisienne, la peur des Noirs, pour dire les choses. C'est de ça dont il s'agit.
Laurent Mukeli, dans votre ouvrage « L'invention de la violence », vous rappelez que souvent, lorsque l'on parle de sécurité, insécurité, on considère la France dans sa globalité. Qu'en est-il des zones urbaines sensibles ?
Effectivement, c'est quelque chose qui est tout à fait important à dire. Il y a des processus qui traversent toute la société française. Et puis, mais la société française, c'est aussi une société qui se ghettoise. C'est-à-dire que de plus en plus, eh bien, selon les territoires, selon les quartiers d'une même ville, on a clairement des groupes sociaux qui ne vivent pas tout à fait dans le même monde, qui n'ont pas tout à fait les mêmes conditions de vie. Alors c'est certain que lorsqu'on concentre à certains endroits du territoire les gens qui cumulent en quelque sorte les difficultés de tout type, on a entre autres symptômes, entre autres conséquences de ça, on peut avoir certains types bien précis de délinquance qu'on va trouver plus fréquents. En particulier des phénomènes de délinquance juvénile qui sont en plus, comme toujours, les phénomènes de délinquance juvénile qui sont visibles, expressifs, provocateurs, etc. Contrairement à d'autres types de délinquance, par exemple économiques et financières, qui sont totalement cachés et qui consacrent beaucoup d'énergie justement à rester cachés. Bon. Alors c'est certain que certains types au terme d'un mécanisme qui est par ailleurs vieux comme le monde, hein, l'accumulation de difficultés intrafamiliales et d'échecs scolaires précipitent très clairement dans la rue et donc potentiellement dans l'engrenage de la délinquance des proportions de jeunes plus importantes que dans d'autres quartiers où on a beaucoup plus de ressources pour faire face aux conflits intrafamiliaux et on a beaucoup plus de ressources pour la réussite scolaire. Donc ça, c'est une inégalité extrêmement forte, tout à fait indéniable, dont malheureusement, dont on ne s'attache toujours pareil qu'aux conséquences visibles, certains types de délinquance juvénile, sans vouloir en analyser les causes. Et donc, ceci mélangé avec ce qu'on disait tout à l'heure sur les phénomènes de bouc émissaire, de racisme ou de xénophobie, etc., ceci conduit donc à attribuer les causes de cette délinquance à des facteurs totalement fantasmatiques, tels que l'origine des gens, la culture des gens, leur religion ou que sais-je, alors que les mécanismes qui produisent ce surcroît de délinquance juvénile dans certains quartiers populaires sont en fait des mécanismes archi-classiques et qui ne spécifient en aucun cas ces populations-là.
Vous parlez de ghettoisation concernant les quartiers populaires, mais également les quartiers riches, tout en rappelant que les ghettos à la française ne sont pas les ghettos du Brésil.
Oui, parce que par ailleurs, nous vivons dans une société qui continue à essayer de développer un service public, un État, localement, etc. Donc, on avec une très grande inégalité, évidemment, selon les territoires, hein, inégalité de ressources, inégalité de mobilisation politique des élus locaux, etc. Mais nous vivons néanmoins dans une société très, très marquée dans sa culture politique, hein, par l'idée de service public, par l'idée de présence des services de l'État ou des collectivités. Bon. Donc ça, c'est certain qu'on ne voit pas, on voit pas les situations d'abandon quasi radical qu'on peut observer dans d'autres pays. Néanmoins, le revers de la médaille, c'est qu'il ne faut pas s'imaginer non plus que derrière ce discours, cette présence, ces dispositifs, ces institutions, s'imaginer que ces institutions fonctionnent bien et que ces services publics fonctionnent bien, etc. Non, je pense qu'à beaucoup d'égards, dans certains quartiers, ces services sont en crise, en crise profonde, sont en train de se barricader et sont dans le sentiment d'impuissance face à l'ampleur des problèmes. Et ceci n'est pas objectivé. Pour prendre un exemple de cela, qui est la situation de l'école, qui est évidemment une institution tout à fait centrale dans les quartiers, quand un des indicateurs et des contextes tout à fait fondamentaux, y compris pour les questions de délinquance dont on parlait, c'est le niveau de l'échec scolaire. Et ça, on peut le mesurer. Je veux dire, dans une même ville, on peut avoir plusieurs collèges, on regarde le niveau des résultats au brevet des collèges. Et on s'aperçoit que d'un quartier à l'autre, on peut avoir des écarts tout à fait considérables, mais absolument considérables, qui montrent qu'on n'est pas tout à fait dans le même monde, alors qu'on est parfois à quelques centaines de mètres à vol d'oiseau. Hein. Bon. Donc, ça montre bien que derrière la façade de l'unité, hein, ou de un seul service public, une seule école, etc., derrière la façade, en réalité, on peut avoir des fonctionnements très différents. Hein. Et je dirais, c'est là qu'on est piégé un peu par cette culture politique, qui est qu'on s'imagine que parce qu'il y a la même façade, il y a la même chose derrière, et que donc on ne se donne pas les moyens d'analyser réellement ce qui se passe à l'intérieur, d'analyser réellement l'origine, les causes de ces différences, et donc de trouver les moyens de les compenser. Il est tout à fait clair à mes yeux que confronté au niveau de difficulté d'intégration scolaire de beaucoup de populations, a fortiori eh bien, très précaires, d'immigration récente, des gens qui maîtrisent mal la langue française, etc., on sait que ce sont des handicaps considérables pour les jeunes qui vont rentrer, pour les enfants qui vont rentrer à l'école, et que ce sont qu'on se prépare l'échec scolaire et donc les problèmes de demain. Bon, pourquoi cette question-là n'est pas sur la table ou pas suffisamment, hein? Pourquoi est-ce que les systèmes de compensation sont trop faibles? Je veux dire, il y a eu quantité de rapports sur le bilan des ZEP, par exemple, qui montrent que effectivement le petit effort qui est fait est tout à fait insuffisant par rapport au niveau du problème, et que donc on est conduit à faire du saupoudrage, hein, du saupoudrage. Et alors j'ajouterais enfin que pour terminer que dans le contexte actuel de révision générale des politiques publiques, donc de réduction des effectifs, des moyens, etc., dans certains établissements, la situation quand même est à mes yeux plus qu'alarmante.
Alors c'est vrai que ces jeunes sont, dans les quartiers populaires, sont souvent en conflit avec les représentants des institutions, vous les rappelez, policiers, enseignants, contrôleurs des transports. Quelque part pour eux, c'est presque la seule possibilité d'exister.
Il faut essayer, mais encore une fois, c'est presque interdit dans le débat public aujourd'hui. Mais malheureusement, si on veut comprendre une situation, la comprendre au sens intellectuel, il faut forcément, à un moment donné, sortir du jugement en surplomb, du jugement moral, consistant à dire simplement « c'est pas bien ce que vous faites », etc. Il faut, si on veut réellement comprendre ce qui se passe pour essayer d'y changer quelque chose, il faut forcément essayer de se mettre à la place des gens. Alors c'est ce que les politiques ont tant de mal à comprendre. Lorsqu'on essaie cette démarche de compréhension, on est aussitôt renvoyé en disant « Ah oui, mais donc vous défendez, vous justifiez, vous excusez, etc. » Bon. Alors que c'est pas le problème, hein. Le sociologue n'est pas là pour porter des jugements moraux, il est là pour essayer de rendre compte, hein, d'expliquer pourquoi les choses se produisent comme elles se produisent. Et donc, si on veut faire ça, il faut forcément essayer de se mettre à la place des gens, hein, donc se mettre à la place des familles, des jeunes, etc. Et lorsqu'on fait un minimum cette démarche, lorsqu'on se met par exemple à la place du jeune qui vit dans un quartier qui a une réputation pourrie d'emblée, bon. Ce qui lui est rappelé de mille manières, dans la rue, à la télévision, dans la presse locale, etc. Lorsqu'ensuite, il a des parents qui sont d'une culture ou d'une origine qui est en permanence, là aussi, stigmatisée, à qui on renvoie, qui sont forcément moins bien que les autres, des citoyens moins bons, qu'ils sont a priori suspects d'être, etc. etc. Lorsqu'en plus, il se retrouve progressivement en situation d'échec scolaire à l'école, il faut quand même comprendre l'espèce de l'importance de la révolte intérieure qui peut évidemment exister. Bon, alors si on fait cette démarche-là, qui encore une fois ne vise pas à porter un jugement moral, hein, mais simplement à analyser intellectuellement ce qui se passe, pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent et font ce qu'ils font, si on fait ça, ben voilà, effectivement, on comprend comment peut germer la révolte, comment une révolte sourde, je dirais, qui est en fait quasi quotidienne. On comprend aussi du coup par quel mécanisme il y a des moments au cours desquels elle peut exploser, hein, en particulier le temps de l'émeute, hein, phénomène qui s'est quand même là aussi largement banalisé, alors sous des formes très 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 diverses. Hein, il n'y a pas forcément la grande émeute spectaculaire qu'on va voir à la télévision. Bon, il y a des formes plus douces et plus banales en quelque sorte, enfin plus quotidiennes. Mais c'est encore là, encore une fois, ces provocations, ces révoltes, etc., sont à référer. Bien sûr, quelque part, à la jeunesse, à l'adolescence, hein, donc il faut quand même toujours rappeler que c'est le propre de l'adolescence, et partout, et de tout temps, et dans tous les milieux, que de chercher la limite, contester les adultes, provoquer, avoir des conduites à risque, etc. C'est pas propre aux habitants des quartiers, pas du tout, c'est l'adolescence en tant que telle. Mais que par ailleurs, cette situation est aussi renforcée considérablement par des sentiments d'injustice, une révolte et une colère qui est liée à la situation que la France fait à ses quartiers populaires et à ces populations dites immigrées, alors même que nous sommes un pays d'immigration, hein, et à l'image considérablement négative et dégradée qu'on leur renvoie en permanence.
Alors, qu'en est-il du vivre ensemble ?
Alors, lorsqu'on travaille sur ces problèmes et qu'on va vraiment au niveau de, par exemple, interroger dans le quartier où nous sommes, si on faisait là, maintenant, un petit peu de porte-à-porte, par exemple, pour demander aux gens, alors on trouverait, bien sûr, certaines personnes qui ont été victimes d'un cambriolage, d'un vol, violent ou pas, récemment, mais ce serait évidemment une petite minorité. Et puis, on trouverait des gens plus nombreux qui se plaindraient de ce qu'on appelle souvent les incivilités, qui se plaindraient de bruit, de dégradation, de regroupements qui leur font peur, de gens alcoolisés ou de gens qui fument du hashish. On trouverait beaucoup plus en été ce type-là de perception et d'observation qui nourrit chez beaucoup de personnes ce qu'on peut appeler le sentiment d'insécurité. En particulier les personnes âgées, les personnes seules, les personnes plus en précarité, les personnes vivant dans des quartiers plus dégradés. Bon. Mais ce que montrent les recherches, c'est que ce sentiment d'insécurité n'a pas pour première explication le fait d'avoir été réellement victime de quelque chose. Il découle beaucoup plus d'un sentiment de fragilité, de vulnérabilité, de solitude, etc. Et c'est en cela qu'il pose la question du lien social sur lequel vous m'interrogez. C'est-à-dire que, à l'évidence, la réponse à cette inquiétude, la réponse à ces peurs, serait beaucoup plus à trouver dans des façons de lutter contre l'anonymisation croissante de notre société, plutôt que dans l'exagération des risques et dans l'idée qu'il faut mettre le plus possible de façon de contrôler, surveiller, interdire, policer, etc. Alors que sans doute que le cœur du problème, en réalité, n'est pas celui-là.
Quel est-il alors ?
Eh bien, il est beaucoup plus précisément sur ces relations sociales, la faiblesse, le délitement d'un certain nombre de relations, d'interconnaissances, de solidarité, de proximité, de liens, de famille, de voisinage, etc. Tout ce qui fait que toute une série, je dirais, de petits accrochages, de petits conflits de la vie quotidienne, qui ont toujours existé, eh bien, prennent aujourd'hui sans doute davantage d'ampleur et de répercussions parce que les gens sont seuls. Pour y faire face. Hein. Les mêmes personnes qui vont se plaindre, par exemple, d'un regroupement de jeunes le soir faisant du bruit ou dégradant, le phénomène dont il est question n'est pas nouveau. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que la personne soit seule, qu'elle n'ose pas sortir se sentant totalement sans moyens, et que donc sa seule solution pour sortir du problème, c'est de faire le 17 et d'appeler police secours. Eh bien, partant de la même situation, on peut se dire que le principal changement n'est pas dans le comportement en question de tel ou tel petit groupe de jeunes, etc. Le principal changement est précisément dans cette solitude de l'habitant. Et il serait prioritaire, en particulier au niveau local et des pouvoirs publics locaux, d'essayer de retravailler ce lien social, de refaire davantage de solidarité, de refaire davantage de capacité des habitants à organiser un petit peu leur vivre ensemble local davantage.
L'ouvrage « L'invention de la violence » de Laurent Mucchielli est paru aux éditions Fayard. Planète Info, une émission réalisée par Stéphane Gravier et présentée par Manjushri Pradhan.